Bonjour, nous sommes sur Aligre FM 93.1. Nous sommes mardi matin et nous sommes dans La vie est un roman. L'émission aujourd'hui va commencer par la présentation d'un festival de musique qui aura lieu sur une péniche à la fin du mois d'août à Juvisy-sur-Orge. Le festival se nomme Embarque.
Festival Embarque, du 27 au 29 août à Juvisy-sur-Orge. Trois jours de concert à quai et en croisière. Vendredi 27 à 18h, voguer avec le violon baroque de Noémie Schindler. Et le zarb iranien de Jean-Pierre Drouet. Une partita de Bach et plusieurs créations originales. Samedi 28, faites-vous du bien dès 10h du matin avec un atelier de musicothérapie mené par Ella Tadeo. Et ralentissez à 16h avec un concert relaxation proposé par Narciso Aksayam et Michel Berti. Toujours le 28 à 18h, laissez-vous emporter par le violoncelle et la voix de Didier Petit.
Alors on plonge et on dérive. Vibrer, léger, s'élancer. L'espace est en nous et la vie est douce. Bientôt nous serons là, car la lune est en nous et le son, oui, est doux. Bientôt nous serons là, car la lune est en nous. Thank you.
dimanche 29 août à 15h, embarqué sous la houlette de la violoniste Sona Kochafian et du violoncelliste Pierre Strauch. Pour deux créations et la sonate de Ravel. Enfin, le 29 à 18h30, clôturé en beauté le festival avec la clarinette de Luis Cavis et l'électronique de Nicolas Vérin. Festival en bas, du 27 au 29 août. Pour tous ces concerts, on embarque sur les péniches Alternat de Bailly et Jean de la Canne. Amarrée à Juvisy-sur-Orge, dans l'Essonne, à 2 minutes de la station de Nivelles. Réservation indispensable. 07 67 01 25 15 ou en allant sur la page collectif-impulsion.fr. collectif-impulsion.fr.
Alors on plonge et on dérive. Alors on est vibré, léger, silencieux.
C'était donc le festival de Juvisy-sur-Orge. Et je vais vous mettre tous les renseignements pratiques sur la page podcast de l'émission. Maintenant, je vais vous lire un texte. Moi, Yves T., 73 ans, confiné et ras de temps. Dans tes rêves, cela fait bientôt un an ou deux que je ne suis pas sorti de mon quartier, que je n'ai pas pris un bus, un métro, que je ne suis pas monté dans une voiture, dans un train, dans un avion, dans un bateau, chez une voisine, un ami, une ex, et que je poste tous les soirs un dessin sur Facebook, espérant récolter des likes, des loves, des waouh et des solidaires. C'est là que je deal, que je prostitue ce qui me restait de fierté, quémandant de l'affection et de la reconnaissance à tout venant. Sur l'instance d'Ulysse, mon fils, 22-23 ans, je me suis mis aussi sur Instagram, et quand mon post Facebook récolte 30 likes ou plus, je le mets ensuite sur Insta à l'aide de mon Mac, moi qui n'ai pas de téléphone portable, de passé, d'avenir, d'ambition, de mémoire. Oui, physiquement j'ai 73 ans et mentalement j'en ai 5 ou 6. J'ai commencé à dessiner l'année passée sans jamais avoir appris à le faire. Ça n'a rien d'original par rapport à ma vie tout entière. Car j'ai toujours dû me démerder tout seul, et depuis très très tôt. Je n'avais pas de père. Pour ma mère, j'étais un boulet, un calvaire, la reine de toutes les corvées. Et c'est à 4 ans que j'ai été mis dans ma première pension, peu de temps après la Deuxième Guerre mondiale. Une pension catholique pour orphelins, ou semi-orphelins, ou enfants abandonnés. Les bonnes sœurs, ce n'était pas un cadeau. Et au dortoir, des lits alignés les uns à côté des autres. La bite d'un gant dans la bouche avec tout le monde qui rigole et qui braille autour. Merci la Belgique, la vie, les Flandres, la Wallonie, Bruxelles. Je suis devenu un vrai caractère réel, se faisant renvoyer d'institution en institution. Mais bon an, mal an, j'ai survécu et à 72 ans, je me suis mis à dessiner. Voilà. On en est là. Je n'ai plus rien à lire, je n'ai plus rien à boire. Je n'ai plus rien à fumer, je n'ai plus rien à écouter. Je n'ai plus rien à regarder, plus de séries. Je n'ai plus d'appétit. Je n'ai plus rien à dire, plus rien à attendre, plus rien à espérer. Plus rien à donner, plus rien à recevoir. Juste rentrer la tête dans les épaules, croiser les doigts, toucher du moi. Et dans ce temps étale, je m'étale. À part ça, maintenant qu'elle ne m'est plus nécessaire, la discipline m'est légère. J'essaye de ne pas penser, de ne jamais penser. J'ai toujours été très doué pour cela. Mais avant, j'avais des distractions très prenantes. Je ne les ai plus. Je ne bouquine plus jour et nuit, ne mate plus des séries HBO, ne parle plus, ne frime plus. Mon Mac m'a lâché, est devenu HS, et j'ai perdu mes 50 000 morceaux de musique. Ceux que j'avais téléchargés pendant des années sur mon iTunes. Les livres m'indiffèrent, je mange des fruits et je me dis souvent à moi-même, cesse de faire ta chochotte, je dessine. Je ne veux plus écrire, je n'en ai plus envie. De lire aussi, je n'en ai plus envie. Je ne comprends pas pourquoi j'écrivais, je ne comprends plus. Mais peut-être qu'en fait je n'écrivais pas, que je faisais semblant d'écrire. Effectivement, c'est une idée intéressante et qui peut se défendre. J'aurais fait semblant d'être journaliste, critique d'art, prof, et que sais-je encore, animateur de ceci et cela. D'ailleurs, des fois, ça marchait. C'est comme s'il n'y avait pas de différence entre faire la chose vraiment et faire semblant. J'allais au cinéma, je regardais le film, et ensuite j'allais au bistrot le plus proche, j'écrivais ce qui me passait par la tête, j'allais dans un tabac, j'achetais une enveloppe et un timbre. J'envoyais mes feuilles à la secrétaire de rédaction qui les tapait. Ma prose était publiée et les gens qui la lisaient étaient contents. C'était si frais, si juste, si vivant. Et en plus, j'étais payé. Mal, mais j'étais payé. Ma fake prose nourrissait ma survie. La différence, c'est que maintenant, je sais que je vais mourir et qu'avant, je ne le savais pas. Et que, le sachant, je sombre dans le « à quoi bon ?». Mais pas seulement. Il y a aussi que je trouve certains écrits tellement plus convaincants que mes suites de mots si maladroites, si peu musicales. Je dis ça, mais je les ai eu trouvées habitées. Le problème, c'est que pour les meilleures d'entre elles, elles communiquaient si peu. Alors qu'à l'oral, j'étais brillantissime, très douée. Un vrai tribun. Le roi des bluffeurs. Capable de parler pendant 1 heure à 50 personnes dans un amphithéâtre, en inventant au fur et à mesure ce qu'il disait. Sensible aux moindres variations d'humeur d'une salle sidérée, amusée, captive de son chant de rauque sirène. Bien sûr que je lisais beaucoup, mais je ne faisais rien d'autre, ne construisais aucune argumentation, faisais l'impasse sur toute pensée cohérente, allant de ci de là où ma fantaisie m'emmenait, bonimenteur professionnel, joueur de pipeau, enchanteur. Il y a aussi que je parle tout seul, et quand on ne fait que se parler à soi-même, on a de la peine à se renouveler, qu'on ressasse, qu'on ait un cheveu de radoté. Les autres sont énervants. Ils ne sont jamais contents de ce qu'on fait, mais ils peuvent être gratifiants aussi. Et même quand involontairement ils nous blessent, ils relancent la machine, forcent à l'ironie, à ravaler ses larmes, à faire celui qui n'a pas mal, qui est au-dessus de tout ça, qui a l'habitude des rebuffades, qui n'a pas été désiré, qui a été d'emblée une charge, une corvée, une punition, et qui a survécu quand même, en chien de fusil, en boule, hargneux, aboyant, grognant, fragile, chauchote, jouant son impassible, au-dessus de tout ça, besoin de personne, amante à soi seul, une rengaine, une scie, et je te répète que je me répète, et que je tourne, que je me retourne, t'as le refrain, mais t'as pas les couplets, plus d'allant, plus de venant, rien que du confit de l'enfermé, et ça, ça sent pas bon. Des jours et des jours sans voir personne, pas d'éclat, pas de provoque, pas de tendre empoignade, d'affrontement maladroit, de se cacher à soi-même qu'on a mal ou que là on a été lourd, ce qui est bien pire encore. Un égo assommant, un égo gonflant, cette impression de pédaler dans les nuages avec un petit sourire de frimeur coincé au bord des lèvres. Ce côté à moi, on ne l'a fait pas, a tout fait, tout lu, tout vu, tout bu, de l'eau sur les plumes d'un canard et mettre tous ses espoirs là-dedans. Faire image, une collection d'images, des mirages dans la poussière et le soleil, et puis subir la canicule, devoir aller marcher tôt le matin à la fraîche, cuire et recuire, dur, bouillir. Qu'est-ce qui ne marche pas? Quand est-ce que c'est trop et quand est-ce que ce n'est pas assez? Et pourquoi vouloir que ça marche? Chantonner, s'oublier, marcher, oui, marcher, ça, ça marche. On rêvasse en se descendre, s'oublie sous soi. Voilà ce qu'on ne voit pas. On perçoit le pouls de la ville, les artères dans lesquelles, souples et discrets, on se glisse, content d'aller nulle part, d'être là en mouvement, loin de ce ça, loin de tout, juste rien. On se promène, on baguenaute, on est seul, on monte, on descend. C'est le corps qui parle, et lui ça va, alors on va. Et en finit mon dernier livre qui racontait l'année 1982 et m'apprêtant à raconter la suite, stimulé par le challenge que ça allait être, bien décidé de devenir plus attentif aux autres personnages, aux femmes que j'allais croiser, aux récits des amitiés tumultueuses et des amours insensés que j'avais vécues en 1983, 84, 85... voulant donner à tous l'épaisseur nécessaire, une indispensable profondeur. Je me dis, il faut que je me penche sur eux, que je les scrute inlassablement, que je les décrive et que je les inscrive, que je les graffe, les peigne et les dépeigne. Il faut de la couleur et du trait, du fusain, de la sanguine, de l'aquarelle, de la gouache. Je dois renouer avec mes 17 ans, redevenir le peintre que je voulais être, car oui, à 17 ans, bruxellois, à la place Sainte-Catherine, je peignais. Et cela fait donc 1 an que je poste un dessin par jour. Et hélas, Élise, ô vice, toi, toi, mon toi, sur la plupart des dessins, c'est moi que l'on voit. Mais pourquoi? Comment? Où? Quand? Combien? Ne vous inquiétez pas, vous allez bientôt pouvoir les acheter. Dès que nous ne porterons plus de masques, 200 euros pièce, dès que possible. Oui, moi, à tous les âges de la vie. Voilà ce que c'est de ne pas avoir été désiré. Je suis le bagne et le bagnard, le triste cire à la belle figure, la griffe et le sillon, la chanson qui ne sait que dire non. C'est déjà sur Instagram, mais ainsi que je vous l'ai dit, je n'ai pas de téléphone portable. Donc cela reste très modeste, comme tout le reste d'ailleurs. Un mec qui se mord la queue. Aucune sensualité. Bon, ça, bien sûr que ce n'est pas vrai. Ça ronronne et ça a des mains douces. Ça n'a juste pas appris à s'affirmer. Ça doit crier pour montrer que c'est là. Ça ne sait pas dealer donnant, donnant. Ça prend et ça s'en va. Ça parasite. C'est pas de la musique, c'est du bruit. On tape sur des casseroles. Il y a des sifflets, des guimbardes, des trompes, du yodel, du saxophone, du free jazz. Donc, pour voir les personnages que j'allais décrire, je me suis mis à écrire, je me suis mis à dessiner et encore dessiner, et j'ai cessé d'écrire. C'est ici ce que j'essaye de vous décrire. Dessiner tous les jours, avec soi et contre soi, enchanté et déçu, fier et honteux, vieille brute autodidacte d'un genre archaïque, marcher sur un fil flou, survivre, ne faire chier personne, être à peine là, juste au centre, mais comme invisible. Ça chantonne, ça murmure, vivante légende que personne ne connaît, marmoréen vestige d'une existence destinée à ne laisser aucune trace, car trop juste, aérienne, délicate, songe d'une nuit d'été d'avant toutes les canicules, ni vu ni connu, je. Hier, mon éditeur m'a appelé et m'a dit « Fais-moi 30 000 signes, on va relancer la machine ». Sortir un coffret avec tes 5 livres dedans. Oui, mais je radote. Ulysse m'a dit que je radotais. T'inquiète, Bukowski et Müller et Miller radotaient aussi. Mais écrire sur quoi? Je ne sors plus, je ne vois plus personne. C'est bon ça, fais-moi un Yves T, 73 ans confiné, radotant. Allez à Jacques Taès, vous allez pouvoir vous régaler de mes posts sur Instagram, ceux qui ont au moins 30 likes sur Facebook et qui sont ainsi devenus aptes à figurer sur ma page Instagram. Le principe, c'est un petit texte et un dessin. Ne vous inquiétez pas pour les dessins, je vous les écrirai, ou peut-être pas en fait, faut tester. Celui que je vous ai lu plus haut, par exemple, tient très bien sans son dessin. Le précédent disait « Vendredi 11 décembre, sept personnes dans le personnel de l'école où ma compagne travaille ont été testées positives. Elle a fait le test mardi et doit y retourner lundi prochain. Chez les animateurs dont ma compagne s'occupe, deux copines d'Anna Livia et un copain d'Ulysse Boss. Les résultats viennent de tomber, négatifs pour tous les trois. Là, on est samedi matin. » Compagnez-moi dans le salon sans masque et Ashitaka, le grand chat noir qui ronronne très fort. J'ai bu mon café et maintenant faut que j'aille mettre de l'eau à chauffer pour le thé. Samedi 10h43, coup de téléphone, ça y est, il y a un cas positif dans l'équipe, dur dur. Cette femme n'a pas de fièvre mais plus de goût ni d'odorat. 20 minutes plus tard, un deuxième appel, un garçon, il a la fièvre lui. 2/12. Lundi 14 décembre, ma compagne me téléphone, il est 15h40, elle a reçu ses résultats, c'est négatif. 3 jours qu'elle flippait sa race, et là son soulagement est énorme. Elle va pouvoir à nouveau dormir dans son lit, c'est-à-dire dans le nôtre. Voilà, c'est comme ça jusqu'à la prochaine fois. Le 5, en 1979, j'ai 30 ans et avec François Rappeau, graphiste émérite, nous sortons le numéro 3 de 48-88 sous forme d'un poster rouge brique avec un design à la Malevitch dont le titre est 12 autoportraits et qui promet pour une somme modique rapidement, qui ornera pour une somme modique rapidement et avantageusement pas mal de chiottes de Jeanne Lausannois. 12 autoportraits, soit devant un livre, en jeune homme, en femme, digne, en penseur, l'artiste riant, en porte-étendard, à l'âge de 34 ans, en prince oriental, en écrivant, effaré, à l'âge de 52 ans. Devant un livre, risque de l'ambition même de la moindre, j'éructe la laine noire, les yeux rouges, le rire jaune, qui se réfère à un privilège qui ne m'a pas toujours été reconnu, celui de m'encanailler sans perdre ma superbe. Cette dépense continue n'a plus de sens. Imaginez la scène, au centre un derviche, au-dessus des oiseaux et autour les magnifiques, mi-exatiques, mi-crispés. Mine de rien, voyeur, mais assez de ces cantiques analgésiques. Parlez-moi de groupes, de conflits et d'amour dans la mer du tout. La durée me file encore entre les ancres. La durée, l'effort, la tension, la concentration lui pesaient peu, car il savait le havre à portée d'elle, en jeune homme donc froid, inhumain, insensible, mathématique. Maintenant il m'importune, sa bouche sèche, sa façon de toujours se plier sans se rompre. Reste calme, pied en sang et ça continue à marcher. Et moi qui ai l'esprit saignant, entre des haies de cerfs alanguis et sidérés, vu d'une fenêtre par les ports obscènes qui nous gouvernent, ma morgue superbe n'est jamais que l'enseigne de ma superficialité. Je clapote en elle dans la magnificence de mes rêveries. Le 1er décembre, j'avais donc rencontré Pajac et quand il fut à nouveau animé par l'envie de créer un journal, il me contacta et nous fîmes « Nous n'avons rien à perdre », un périodique de 16 pages au format 30 x 34 cm et tirant à 3000 exemplaires et dont le premier numéro sortit en novembre 1975, portait en une la citation suivante. Ceux qui parlent de révolution et de lutte des classes sans se référer explicitement à la vie quotidienne, sans voir ce qu'il y a de subversif dans l'amour et de positif dans le refus des contraintes, ceux-là ont dans la bouche un cadavre. Et citer allègrement Marx, Debord, Mayakovsky, Lukács, Van Hegem à toutes les lignes. 23 personnes, la plupart pour la première fois, y ont publié textes et dessins dans l'un ou l'autre des trois numéros parus. Le journal que nous fîmes ensemble, le journal suivant que nous fîmes ensemble, changea radicalement ma vie. Car c'était un hebdomadaire satirique et que j'y prenais en charge 80% du contenu rédactionnel, vu que tous les autres étaient plutôt des dessinateurs. Je me suis mis à écrire vite, comme ça venait, et ça a marché, beaucoup plus, et j'ai arrêté à tout jamais de me regarder écrire. Celui-là était une production de Rolf Kesserling, qui voulait éditer le Charlie Hebdo de la Suisse romande. Il avait pour titre « Chute Hebdo » et marchait bien, mais vu le côté marginal de l'éditeur, au bout de 3 mois, il n'y avait plus de fric et il s'est arrêté. Je le vendais à la criée dans les bistrots, ce qui me permettait d'arrondir mes fins de mois épiques en ces temps-là. Chute attaquait les entreprises locales, Knorr, Migros, Nestlé, Sibagegi, UBS, et toutes les personnalités locales, gauche et droite confondues, la presse bourgeoise dans son ensemble. Et si les thèmes écologiques y étaient récurrents, l'électoralisme des écologistes y était constamment tourné en dérision. Le 30 novembre, ayant publié mon premier livre un été en 1973, l'année suivante, quand j'ai rencontré l'éditeur, cuisinier, dessinateur, écrivain, aujourd'hui multiprimé et décoré, l'alors mélancolique Frédéric Pajac, il avait 18 ans et moi 25, et qu'il m'a invité dans son HLM en lointaine banlieue lausannoise, j'ai pu lui offrir cet ouvrage et apparaître auréolé du prestige d'un auteur autopublié. Mais ce gamin a évidemment tout de suite dénigré mon livre en prétendant qu'il était minable et que je n'y parlais que de cul, ce qui était et reste absolument faux. Ce livre racontait la vie quotidienne de jeunes gens qui mettaient des publicités dans des boîtes aux lettres pour une boîte de formation en informatique. 40 ans plus tard, je l'ai résumé en un texte de 2 pages qui ouvre un autre de mes livres, Funky Boy. Je ne suis rien, je rien. Il, je veux donner le jour et reprendre la nuit. Ombre, pénombre, espace nocturne, espace diurne, tentation de raisonner, lointain point d'orgue, 1 ou 2 tambours, les baguettes tombent, roulent, remontent, le voile se déchire, un cri, ombre, les boîtes défilent, rapides, horizontales, nombrils, rectangles, je ne suis rien, je ne suis rien, suis rien, rien, un matin ordinaire, con et humiliant, pour apprécier, faut avoir connu, médiocre, rageur, brouillon, labyrinthe sombre, échapper, revenir, plante-t-il des morts pour qu'ils poussent des vivants ? Je ne suis rien, je rien, rien, rien. Le 26. J'ai vu Picasso en vrai lors d'une corrida à Antibes en 1964. J'avais 16 ans et lui plus de 80. Il avait l'air en forme, il était en short et l'un des toreros lui a offert une oreille. J'ai pas aimé les picadors et ne suis jamais retourné dans aucune corrida. Cette année-là, j'ai vu aussi Hugo Frey, son Skiffle Group, aux Arènes de Nîmes. Il chantait des traductions de chansons de Bob Dylan. J'ai vu Ray Charles, Red Défoncé et Dick Rivers ailleurs, et dont la faible voix était couverte par ses musiciens. Et 2 ans plus tard, en 1966, j'ai vu une exposition enthousiasmante et formidable de Picasso Matisse au Grand Palais. Le 19, je ne pense qu'au vide ni au plein. J'ai le rouge au front et plein d'idées folles dans la tête. À Beaubourg, je suis Dame Pipi. Manzoni est mon ami. La fatigue est fille de l'excès, sœur de la volupté, mère du vice. Fatiguez-vous. Tendre et tendu, il tend les reins, tendrait. Le 18. Je n'ai pas d'idée, pas de talent, pas de style, pas d'imagination, pas de don, pas de facilité, pas de muscles, pas d'argent, pas de voiture, pas de costume, pas de télévision, pas de téléphone portable, pas de relation d'amis au placé, pas de vice notoire, pas d'oreille, pas de nez, pas d'ambition, pas d'opinion, pas d'envergure, pas de jeune, pas de respect, pas de limite, pas de principe, pas de rigueur, pas de maigreur, ça peut-être marcher. Le 14, voilà comment je vois le truc. Les années 70, on a la trique, on se libère, on est dans tous les coups, on joue le jeu. On prend tout ce qui passe, on est hyper content de se réveiller tous les jours à 14h de l'après-midi. Les années 80, contre-coup, il n'y a plus que le fric qui compte. On est largué, on ne comprend plus rien à ce qui se passe. On galère, on se lève archi-tôt, on court bosser, tout est blâme et sans joie. Les années 90, on s'est vu offrir un boulot relax, arriver de la micro-informatique et des séries télé HBO. La société du spectacle a enfin trouvé de quoi nous baiser, et baiser on l'est, et super content en plus. Le traitement de texte est une pure merveille. Les années 2000, on produit, on publie, on obtient une demi-page de critiques élogieuses dans Libé, idem dans Le Monde, un billet dans l'Huma. Les années 2010, les séries s'épuisent, les écrits s'affadissent, les enfants grandissent. Puis enfin arrive 2020, la fin du monde est annoncée 2 fois par semaine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Voilà, on en est là. Adieu les boomers. Le 13, aujourd'hui mon bébé Annalivia a 20 ans. Le 11, j'adore parler des choses que je ne connais pas. En disant Rembrandt ceci, Rembrandt cela, je découvre des choses sur lui que je ne savais pas avant de les dire. Ça fuse, ça surprend, ça épate, et moi le premier. Ah bon, il était comme ça, ce vieux farceur. Et James Ensor, il était comment? Et Gustave Courbet? Et Asger Jorn? Asger? Il était plutôt... le disent. Puis-je me présenter à vous ? Je dis ça, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas lu mes livres. J'ai quitté l'école à l'âge de 16 ans. Je suis parti de chez moi à 17 ans. Et suite à de nombreux voyages, j'ai été vivre en Suisse où à 23 ans, j'ai passé un bac comme candidat libre. Je suis entré à l'université, y ai fait 5 ans d'études et ensuite diplômé de cette vénérable institution. En 1979, je suis monté à Paris pour entrer au séminaire des doctorants de Pierre Bourdieu à l'EHSS et j'ai tenu un an. Ensuite, ayant galéré pendant une décennie en vivant de divers expédients, on m'a offert une sinécure dans l'enseignement artistique supérieur où je me suis épanoui pendant 25 ans. Le 9. J'aurais aimé être pan, j'aurais aimé être fin, plein de tact, plus aimant. J'aurais aimé être moins encombré de moi, moins dans la survie, dans l'éternelle peur de manquer. J'aurais aimé être moins ricanant, cynique et bêtement médisant. Ok, je dis ça, mais c'était pas si mal de se laisser aller, de ne pas se prendre la tête sur tout ou rien, d'aller où c'était plus facile, plus fluide, de laisser venir, d'aimer le mouvement pour le mouvement, le bistrot pour le bistrot et les gens pour eux-mêmes. Le type à la radio dit « À Paris, il y a un malade du Covid qui est hospitalisé toutes les 15 minutes. Je deviens pâle, mon cœur s'affole. Une vague de chaleur m'envahit, j'ai la trouille. Comme ça, là, sur ma chaise, devant mon écran. Quelle histoire !» Le 1er novembre. Il n'y a plus d'ampoule à la salle de bain au-dessus du miroir. Plus de douille. Je me rase au toucher. Je n'ai jamais rien su faire de mes mains. La vue d'un tournevis me fait pleurer. C'est sans doute à cause de mon grand-père qui bricolait tout le temps et qui me forçait à rester debout derrière lui, genre chirurgien, infirmière, et qui disait de voix hyper autoritaire « Machin douce, pince truc ». C'était long, mais long, si long. Moi, mon kiff, c'était de lire ou alors d'être avec les autres gamins de mon âge et de faire toutes les conneries qui nous passaient par la tête. 31 octobre. Purée, comme tout est lourdement dramatique en ce moment. Que dire ? 30 octobre, 26 juillet 1998, mon 50e anniversaire. Des gens étaient venus de partout, de Bruxelles, de Mulhouse, de Lausanne, de Genève, de proches banlieues, de tous les coins de Paris. Et Jean-Pierre Voyer s'est exclamé ce jour-là, « Je t'envie, tu as le don de l'amitié. » 27 octobre. Pensons positif, je cicatrise bien. 11 octobre. Une vie modeste aux ambitions modestes et aux désirs modestes ou une vie insensée aux ambitions insensées et aux désirs insensés. Les deux sont recevables. Partir de rien ou de moins que rien, nanti de quoi ? D'un accent, de deux fautes d'orthographe par mot, d'une dent qui manque de vent, d'une boulimie de lecture, du désir de s'en sortir, d'une passion pour tout ce qui est art, musique, littérature, peinture, philosophie, sociologie, et aimant les filles, les longues nuits blanches, l'alcool, les excès, les discussions qui ne mènent nulle part, n'ayant jamais renoncé, mais si maladroit socialement parlant, fermé, ouvert, indifférent à tout ça, en mode survie, toujours en mode survie. Lancer, relancer, solliciter, pas des merdes, faisant illusion. Chiant, insensé, brouillon. Oui, c'est ça, brouillon, bruyant. Jamais déçu, toujours content. Éternel insatisfait, fermé, ouvert. Roulant, bondissant, absent, présent. Tête baissée, raide des épaules, souffle court, glandeur, se le raconte. S'écoute, s'oublie, oh oui, s'oublie, s'oublie, s'oublie. 10 octobre. Il venait de découvrir qu'il n'était pas immortel et pas non plus le nombril du monde. Ça lui avait foutu un sacré coup au moral. C'était trop tard pour qu'il apprenne à vivre. Il soupira. Une immense lassitude s'empara de lui. Tout lui était hostile. Il était vieux, très vieux. Il ne savait pas faire. Il ne disposait d'aucune ressource, d'aucun don, d'aucun talent, d'aucune compétence. Il ne regrettait rien. Il avait aimé, il s'était aimé, ce petit salaud. Il sourit. Cela allait être dur, très dur, mais il n'avait pas le choix. Il était revenu au début de son existence et l'ambiance ressemblait étrangement à celle d'un roman noir des années 50. Bien sûr, plus personne ne portait ni Panama, ni Burberry, ni Borsalino, mais... 8 octobre. J'ai peu tourné, j'ai peu joué, peu publié, peu vendu. J'ai beaucoup écrit, peu grossi, peu maigri, peu risqué, peu retenu, peu trompé, peu donné, beaucoup reçu. J'ai peu réfléchi, peu pensé. Étoile filante, beaucoup brillé, j'ai peu su, beaucoup frimé, beaucoup glandé, peu économisé, tout dilapidé, peu consommé, peu gagné. 4 octobre, des fois je me sens nul, et à ce propos il m'est revenu à l'esprit ce matin une anecdote formidable que j'ai lue il y a passablement longtemps dans une excellente biographie de Richard Wagner, qui... Lorsqu'un pote vient le voir et le trouve en train de sangloter dans la cuisine en 1864, à un peu plus de 50 ans, et que ce dernier lui demande ce qui lui arrive, et qu'il lui répond les yeux pleins de larmes, « Je suis un imbécile, un minable, rien d'autre qu'un raté. » 1er octobre, il a été branché, débranché, éteint, allumé, lourd, léger, aimé, détesté, encensé, conspué, désiré, regretté, oublié, utilisé, exploité, engueulé, craint, moqué, ridiculisé. Il a été écouté, commenté, critiqué, trompé, sali, calomnié, remercié, suspendu, décoré. Il a vécu. 27 septembre. Évidemment, pour moi, maintenant, les meilleures journées sont celles sans histoire. Et celle de hier fut magnifique. Il ne s'y est rien passé. Et il ne m'y est évidemment rien arrivé. 26 septembre. J'ai aimé vomir debout. Et en marchant vers les gens pour fraterniser avec eux, m'enfermer et briser toute la vaisselle, m'écorcher la peau sur les murs de l'angoisse, brailler de toutes les façons possibles et imaginables, toujours en faire trop, des masses de trop, être limite, irrité, bouleversé, ne jamais cabotiner, être tout le temps là, soi tout entier à hurler et à faire chier, cesser de se courber, se redresser, se balancer dans l'excès, se glisser dans l'averse, se tremper, et qui aurait pu croire alors que j'allais devenir cette petite chose. Toute ratatinée qui rase les murs et qui s'excuse 100 fois lorsqu'elle marche sur son ombre. 2020 En ce mois de juin 2020, nous étions là, tous enfermés, confinés à 7 dans notre appart. Et voilà que mon tour était venu de raconter une histoire. D'un côté, c'était bien, ça allait me distraire de mes symptômes. Mais de l'autre, c'était l'enfer. J'avais passé toute ma vie à essayer de raconter des histoires et je n'y étais jamais parvenu. Et maintenant que ma vie était finissante, que je faisais partie des personnes à risque, c'était trop injuste. Voilà qu'à nouveau, j'avais à subir cette humiliation. Cela faisait 4 mois et 2 semaines que nous étions confinés ensemble dans notre appart HLM de 72 mètres carrés, à 7. Plus personne ne parlait à personne depuis longtemps. Nous effleurions telles des ombres. « Donc mon drame, c'est un peu ça. Je ne sais pas raconter. Peindre. Emballer, baratiner, oui. Dépayser, envoûter, non. Ça fait pourtant si longtemps que je m'y évertue. En 1973, j'ai essayé de raconter l'histoire d'une poignée de jeunes gens qui gagnaient leur vie en mettant des publicités pour une formation à l'informatique dans les boîtes aux lettres. Je n'y suis pas arrivé. 30 ans plus tard, j'ai tenté de raconter la fin de l'international situationniste. Je n'y suis pas arrivé. Puis la vie héroïque de ma mère. Je n'y suis pas arrivé non plus. Mon enfance miséreuse, le long déroulement d'un été caniculaire à la Butte aux Cailles dans le 13e arrondissement de Paris. J'ai tout essayé. Rien n'a jamais marché. Oui, moi, je ne sais pas raconter d'histoire. Je ne sais pas dessiner, je ne sais pas écrire, je ne sais pas parler. Je ne sais pas chanter, je ne sais pas plaire. Je ne sais pas vendre, je ne sais pas me vendre. Du coup, je fais avec ce « je sais pas » et ça bave toujours un peu. Et je suis tellement malheureux, c'est à pas y croire. Rien ne marche jamais. De toute ma vie de « je ne sais pas », je n'ai jamais touché un prix, une prime, une subvention, une résidence, un diplôme, un compliment, une flatterie. Et donc pendant longtemps, disons jusqu'à 50 ans, comme si je l'avais deviné par avance, j'ai rien foutu. Je me levais à 4h de l'après-midi. Je vis au bistrot, je pérorais, c'était bien. Je lisais de gros livres, je rêvassais, je dessinais dans ma tête. Et c'était tellement ça, à pas y croire. Et des livres dans ma tête, qu'est-ce que j'en ai écrit? Plus que Shakespeare, même. Et dans ma tête, le succès, la gloire, les honneurs, les tapis, les escort girls, le petit déjeuner offert à l'hôtel. Et je chantais sous la douche, à la piscine municipale donc. Vu que je vivais dans une chambre de bonne, et de bonne, il n'y en avait plus, mais il y en avait encore. Et danser. Zut, voilà encore un truc que je ne sais pas. Mais merde pas, je ricane. Et ça non plus, ça ne passe pas, ça ne fait pas vendre. Je flippe trop là, j'angoisse, je me tâte, je frissonne, je m'observe, je me fuis. Je me dis mais non, j'ai chaud, j'ai froid, je tousse pas, je m'oublie, on me parle, j'écoute pas, je transpire pas. Fait chaud, fait froid, je m'occupe, je m'oublie, ça va, ça ne va pas. Tu psychotes, me dit Anna Livia. Ah, pouvoir être doux sans être mièvre. Présent sans être lourd, juste être ce corps, un courant d'air, tournoyer tout doucement comme une feuille qui tombe d'un arbre en automne, et mourir ainsi chaque seconde à soi-même. Non pas être ce corps et abandonner son esprit, non, juste être là, tranquille, sans attente, sans futur, sans passé, sans avenir, et pas enraciné mais flottant dans l'air. Effleurer, chanson ces gens, arbres et sentiments. Cela n'empêche pas de penser, enfin ce qu'on appelle comme ça, ce défilement lent ou rapide, ce bavardage qu'on a dans la tête. Juste on s'en fout, et lui il se calme un peu, il laisse pisser.